Vous écoutez On lit pour vous.
Un centre d'hébergement pour réfugiés ferme ses portes à Québec. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir. La réduction des cibles d'immigration fait tomber le couperet sur les services d'accueil et d'accompagnement. Le Centre multiethnique de Québec, CMQ, principale porte d'entrée des réfugiés dans la capitale, se voit contraint de fermer 25 chambres d'hébergement et d'abolir 8 postes en raison d'une nouvelle réalité budgétaire qui ampute de 70 % l'aide versée par le ministère de l'Immigration. Ces compressions représentent 1 million de dollars et réduisent l'enveloppe dédiée au programme d'aide à la réinstallation dont le centre multiethnique s'avère l'unique bénéficiaire dans la région de la capitale. Jusqu'à maintenant, explique la directrice générale Natacha Battisti, le centre accompagnait annuellement 308 réfugiés pris en charge par l'État. À la suite de ces compressions, ce nombre chutera à 91 personnes par année. Nous savions qu'il allait y avoir une baisse, mais nous ne croyons pas à 70 %. Nous avions l'espoir non pas de conserver les 308, mais d'avoir au moins une grande diminution. Cette diminution s'avère proportionnelle au resserrement de l'immigration humanitaire décrété par le gouvernement québécois dans sa planification pluriannuelle. Le Québec accueillait 1700 réfugiés pris en charge par l'État en 2025, un nombre qui plafonnera à 500 à partir de cette année. La demande en baisse entraîne une diminution conséquente de l'offre. Le centre multiethnique fermera donc, à la fin du mois, un lieu d'hébergement de 25 chambres situé dans le Vieux-Québec et occupé à moins de la moitié de sa capacité. Le CMQ relogera les bénéficiaires actuels, qui comptent plusieurs familles avec des enfants en âge préscolaire, dans ses autres installations. Nous avons aussi eu une suppression en mars 2026 de 33 chambres, ajoute la directrice générale du CMQ. L'équipe est déstabilisée. Coup, sur deux années d'affilée, le centre multiethnique et ses habitations ont vécu des pertes financières qui ont un impact sur le service au moment où nous étions plutôt dans une vision de croissance. La réduction du financement entraîne aussi l'abolition de 6 postes sur une équipe de 65 personnes. Deux autres collègues, employés au centre d'hébergement de la maison Mère Mallet, dont les activités prendront fin le 31 juillet 2026, ont aussi perdu leur emploi. Le gouvernement fragilise l'accueil et l'intégration dans notre région, déplore François Proulx-Dupéré, secrétaire général du Conseil central de la CSN de la Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. Économiquement, ce n'est pas efficace et humainement, ce n'est vraiment pas acceptable. La CSN, en processus de syndicalisation avec le personnel du CMQ, a le premier tiré la sonnette d'alarme sur les compressions gouvernementales. Ça va bien au-delà du processus de syndicalisation, a indiqué M. Proulx-Dupéré. Nous sommes ici pour dénoncer une injustice crasse, inacceptable, dégueulasse envers des familles extrêmement vulnérables. Une employée du centre multiethnique a, elle aussi, abondé dans ce sens en parlant au Devoir. Ces gens-là ne restent pas assis en attendant que l'État les nourrisse à la petite cuillère, a-t-elle indiqué, sous le couvert de l'anonymat, puisqu'elle n'était pas autorisée à commenter publiquement la situation. Ils veulent travailler, tomber en amour, fonder une famille, ici. En moyenne, poursuit-elle, il reste moins d'un an prestataire de l'aide sociale, souvent pour des raisons involontaires. Ils doivent apprendre le français. Ils portent un bagage psychologique trop lourd, ou ils attendent leur permis de travail perdu dans les dédales bureaucratiques. C'était « Un centre d'hébergement pour réfugiés ferme ses portes à Québec », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir.
Les adieux de Maria Callas à Montréal. Un texte de Michel Defoy, paru le 15 septembre 2023 dans BANQ. Le 13 mai 1974, Maria Callas se produit devant 3000 personnes à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts aux côtés du ténor Giuseppe Di Stefano, avec qui elle interprète quelques duos. Cette escale montréalaise permet au public de saluer une dernière fois la grande soprano. Figure mythique de l'opéra, Callas est considérée par beaucoup comme la voix du 20e siècle. Au cours d'une carrière étoilée, elle est montée sur les plus grandes scènes du monde et a travaillé avec les maestros les plus importants. Cette tournée d'adieu voit la grande dame se produire en spectacle pour la première fois en 8 ans, nous informe l'article « Callas au-delà de sa légende », Claude Sanson, Le Soleil, 11 mai 1974. Initialement prévu le 28 mars, le concert de Montréal avait dû être reporté en raison d'une laryngite contractée par Di Stefano, le grand chanteur qui partage la vedette avec la soprano. Bonsoir, l'ambiance. L'ambiance de cette soirée très attendue est rendue non sans humour par Jean-Paul Brousseau dans Callas. Y être ou ne pas y être, article extrait de la presse du 14 mai 1974. L'heure de l'événement musical de la décennie à Montréal a sonné. Et c'est le temps d'être là. D'être compté, C-O-M-P-T-E accent aigu, et compté, C-O-N-T-E accent aigu. D'être vu, écrit le journaliste. Quelque chose comme le tout Montréal y était, enfin, un certain gratin, incluant chanteurs, personnalités et journalistes. Et là, Callas. Elle a des boucles d'oreilles, un bracelet, une montre, une ou deux bagues, un collier d'un seul rang de perles et ses cheveux blonds sont relevés en torsade vers le haut et l'arrière de la tête. Brousseau ajoute « Elle sourit déjà, comme une femme un peu ivre, à qui vous vous obstineriez à raconter quelque chose qui, à cause de l'heure, n'a vraiment plus d'importance. » Point de vue critique. Laissant à son collègue Brousseau les considérations mondaines, Claude Gingras se charge de la portion critique de la soirée. Callas et Di Stefano. Chacun son déclin, s'intitule son texte paru dans la presse du 14 mai 1974. On note chez l'un et chez l'autre des problèmes d'intonation à tous les paliers, surtout chez Callas. La voix est souvent chevrotante, parfois elle n'a même plus de couleur, parfois on sent que la chanteuse veut exprimer quelque chose que la voix ne transmet plus, écrit Gingras. Par contre, on admire encore chez elle la musicalité, le sérieux, le style, l'amour de l'art et, bien sûr, cette incomparable intensité dramatique qui passe dans la voix et cet extraordinaire sens du théâtre qui redonne à chaque mot toute sa signification. Au programme ce soir-là, des airs empruntés à Massenet, Verdi, Mascagni et Bizet, interprétés les uns par Callas, les autres par Di Stefano, et certains encore en duo pour le plus grand bonheur d'une foule conquise. Malgré une ovation finale de 13 minutes bien comptée, il n'y aura pas de rappel, rapporte Gingras. Et la Callas de tirer sa révérence. Ses triomphants adieux à Montréal et au monde, dans la foulée, annoncent la fin de sa vie musicale active. Mais en cette année qui marquerait son centenaire, l'étoile de la diva scintille toujours dans nos souvenirs. C'était « Les adieux de Maria Callas à Montréal », un texte de Michel Defroy, paru le 15 septembre 2023 dans BANQ.
Les aliments transformés et les risques de démence. Un texte de l'agence QMI, paru le 1er juin 2026, dans Coup de pouce. Boissons gazeuses, croustilles, repas prêts à manger et autres produits très transformés font partie du quotidien de nombreuses personnes. Pourtant, une étude australienne suggère qu'en consommer fréquemment pourrait avoir des effets sur les fonctions cognitives, notamment l'attention, tout en étant associé à un risque accru de démence. Les chercheurs soulignent qu'une alimentation riche en aliments ultra-transformés pourrait influencer la santé du cerveau à plus long terme. Une nouvelle étude associe les aliments ultra-transformés à un risque accru de démence. L'étude, publiée dans la revue Alzheimer's and Dementia, Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring, à la fin du mois d'avril, a été menée auprès de 2192 Australiens âgés de 40 à 70 ans, ne présentant aucun signe de démence. En analysant leur alimentation et en les soumettant à plusieurs tests cognitifs, les chercheurs ont cherché à établir un lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés et le fonctionnement du cerveau. Dans l'ensemble, les aliments ultra-transformés représentaient 21 % du poids quotidien total des aliments et boissons consommés par les participants. Les plus consommés étaient les desserts et boissons à base de produits laitiers, les boissons gazeuses, boissons aux fruits et autres boissons sucrées, les collations salées emballées et les produits à base de pommes de terre comme les chips, les viandes transformées et les plats préparés. Les résultats montrent que chaque augmentation de 10 % de la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation était associée à une baisse d'attention ainsi qu'à une hausse du risque de démence. Nos résultats suggèrent que la consommation d'aliments ultra-transformés est associée à un risque plus élevé de démence modifiable et à des effets néfastes sur les fonctions cognitives, particulièrement sur l'attention, indépendamment de la qualité globale de l'alimentation, peut-on lire dans l'étude. Les auteurs notent toutefois qu'aucune association n'a été observée entre les aliments ultra-transformés et la mémoire. Affiner les recommandations. En identifiant le degré de transformation des aliments comme un facteur distinct contribuant à de moins bons résultats cognitifs, notre étude soutient la nécessité d'affiner les recommandations alimentaires pour favoriser une fonction cognitive optimale en tenant compte non seulement de la composition nutritionnelle, mais aussi du niveau de transformation des aliments, conclut-il. Ils ont par ailleurs rappelé que plusieurs autres études ont déjà fait part de leur inquiétude concernant ces aliments dont la consommation a été associée à plus de 30 effets néfastes sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et les troubles mentaux. C'était « Les aliments transformés et les risques de démence », un texte de l'agence QMI, paru le 1er juin 2026, dans Coup de pouce.
Violence sexuelle en temps de guerre, les leçons de la Bosnie, un texte de Marianne Demers-Lemay, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Plus de 30 ans après un conflit qui a laissé des milliers de survivantes de violences sexuelles, la Bosnie-Herzégovine tente de se reconstruire suivant une approche holistique, non sans défi. À l'international, on s'inspire de ses réussites comme de ses erreurs. Le traumatisme restait vif à l'esprit d'Anna, prénom fictif. Un soir, elle décide de se confier à son mari. Elle a été violée lors de la guerre de Bosnie. Celui-ci se glace et la quitte. Elle élèvera seule leurs deux fils. Quelques années plus tard, lorsque ceux-ci apprennent la vérité, ils lui font promettre de garder le silence. Un jour, à la télévision, Anna voit Sabiha Uzic, directrice de l'ONG Medica Zenica, parler des violences sexuelles lors du conflit. Anna contacte l'organisme et commence à rencontrer périodiquement la directrice qui l'écoute et l'accueille dans ce qu'elle a vécu. Le sourire revient enfin à ses lèvres. Ses fils, surpris par ce changement, lui en demandent la cause. Elle leur confie avoir entrepris une thérapie. Ils lui disent qu'elle est alors libre de prendre la parole. Cette histoire illustre comment l'entourage peut contribuer au silence, au tabou, à l'abandon, au rejet ou, au contraire, au soutien, raconte, encore émue, Sabiha Uzic, qui est aussi théologienne musulmane et psychothérapeute. Le viol comme arme de guerre. L'histoire de Anna est malheureusement loin d'être une exception. Le viol a été systématiquement utilisé comme arme de guerre et outil de nettoyage ethnique par les forces serbes lors de la guerre qui a ravagé le pays entre 1992 et 1995. Dans plusieurs municipalités, des femmes ont été violées et torturées pendant des mois. Dans le pays, des dizaines de milliers de femmes, quoique le nombre soit difficile à estimer, auraient survécu à ce type de violence sexuelle. À la fin de la guerre, le cas de la Bosnie a permis de faire avancer le droit international. Longtemps banalisés et considérés comme des dommages collatéraux inévitables, les violences sexuelles ont été reconnues comme crimes contre l'humanité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, une instance créée pour répondre aux atrocités commises lors des guerres des Balkans 1991-2001. Pourtant, l'État bosnien a paradoxalement échoué à soutenir les survivantes de manière satisfaisante, estime Leila Mahmoud, experte des droits fondamentaux en Bosnie-Herzégovine. Les femmes étaient renvoyées vers des psychiatres qui leur prescrivaient des médicaments, alors que pour beaucoup d'entre elles, ce qui était important, c'était de pouvoir parler de ces expériences, observe Leila Mahmoud. Le système de soutien psychosocial et les institutions de santé mentale n'ont jamais été équipées de l'expertise technique nécessaire pour traiter ce type de traumatisme. Les ONG ont joué un rôle énorme pendant la guerre, après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, non seulement dans la consolidation de la paix, dans la création de ponts, mais aussi dans la prestation de services aux survivantes, poursuit l'experte. Les ONG fournissaient un service de soutien absolument essentiel à l'État sans que celui-ci les finance. Les ONG au front. Depuis trois décennies, des organisations comme Medica Zenica, Vive Zene ou Forgotten Children of War, Zaborav Ljena, Djeka Rata ont développé une panoplie de stratégies pour soutenir les survivants, survivantes. Ces ONG priorisent généralement une approche de justice transformatrice qui vise à transformer à la fois les contextes sociaux et les inégalités qui ont rendu ces violences possibles. Fondée en 1993, en plein conflit, Medica Zenica gère ainsi une petite maison d'hébergement. Elle offre des thérapies individuelles et de groupes spécialisés dans les violences sexuelles et les traumatismes de guerre, de l'ergothérapie, ainsi que des formations pour favoriser l'autonomie financière des femmes. L'organisation est aussi active en éducation populaire contre les stéréotypes de genre, en plus de plaider pour la modification de certaines lois et la normalisation de certaines procédures. Elle sensibilise également les procureurs et la police au vécu des survivantes pour qu'ils évitent de déclencher des chocs chez les survivantes. D'autres pays peuvent apprendre beaucoup de Medica Zenica pour ne pas répéter des erreurs semblables à celles que nous avons faites à l'époque, lorsqu'on ignorait presque tout du traumatisme psychologique et de ses conséquences, affirme Sabiha Uzic, qui œuvre au sein de l'organisme depuis sa création. Nous avons développé différents modèles pour transmettre nos formations et notre approche, sensible au stress et au traumatisme, à d'autres institutions. De fait, des représentants d'institutions et d'ONG de pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, l'Allemagne, le Kosovo, l'Irak ou l'Afghanistan, avant la prise du pays par les talibans, ont visité le pays pour s'inspirer de ce bagage d'expérience. Nous expliquons comment nous encourageons les femmes à témoigner, comment nous travaillons avec elles et les familles, comment elles s'intègrent dans la vie et les choses que nous faisons pour la paix en Bosnie, raconte la directrice de l'ONG. Elle souligne l'importance d'adapter toute mesure au contexte local et de soutenir la santé mentale des intervenants-intervenantes dans le processus. Pour une justice réparatrice et transformatrice. Le système judiciaire a aussi connu certaines avancées depuis la reconnaissance du viol et de l'esclavage sexuel comme crime contre l'humanité en 2001. En 2021, une modification du code criminel bosnien a criminalisé le déni du génocide et la glorification des criminels de guerre, des éléments observés en Republika Srpska, République serbe de Bosnie, l'une des trois entités administratives du pays. En 2022, l'une de ces entités a historiquement reconnu les enfants nés de viols de guerre en leur octroyant le statut de victime civile de la guerre. En Bosnie comme ailleurs dans le monde, la justice pénale est indispensable, estime Leila Mahmoud. On a besoin d'un système de réparation global et transformateur, où les femmes peuvent recevoir une thérapie avec des personnes formées, être actives dans l'économie, avec une approche solide et holistique de la guérison, croit-elle. Pour le maintien de la paix, il faut travailler sur l'égalité des genres. Cela signifie travailler pour les filles, mais aussi pour les garçons. De son côté, Sabiha Uzic poursuit sa mission avec optimisme et sourire. Demain, elle rencontrera trois survivantes qui prennent la parole pour la première fois. Plus de 30 ans après la fin du conflit, le travail continue. Même si, pour certaines, il ne fait que commencer. Encadrer. Depuis longtemps, les hommes utilisent systématiquement les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats de l'armée japonaise auraient violé entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants lors du massacre de Nankin en Chine. On estime que 2 millions de femmes en Allemagne ont été violées par les soldats soviétiques, américains, français et britanniques en 1945. En 1971, des centaines de milliers de femmes du Bangladesh ont été violées par l'armée pakistanaise lors de la guerre d'indépendance. Parmi les cas récents, citons le génocide des Tutsis au Rwanda, 1994, la guerre civile en Sierra Leone, 1991-2002, la guerre civile en République démocratique du Congo, toujours active, les persécutions des Yézidis par l'État islamique, les exactions commises par l'armée birmane contre les femmes Rohingya, ou encore celles perpétrées par les forces russes sur les femmes et les hommes en détention en Ukraine. Aujourd'hui, le Darfour au Soudan est l'un des théâtres les plus actifs de violences sexuelles systématiques dans le monde. En 2024, ONU Femmes a recensé plus de 4600 cas de violences sexuelles liées au conflit, utilisées comme tactique de guerre, comme moyen de torture ou à des fins de terrorisme et de répression politique, soit une augmentation de 87% en 2 ans. C'était « Violence sexuelle en temps de guerre, les leçons de la Bosnie », un texte de Marianne Demers-Lebé, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des Femmes.
Magasiner le prix de ses médicaments d'ordonnance. Un texte de Sophie Stival, paru le 7 juin 2026 dans Bel Âge. Les finances personnelles et les questions juridiques sont parfois un vrai casse-tête. Des experts démêlent le vrai du faux. Ça passe, mais pas pour tout le monde. Si vous bénéficiez de l'assurance médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, les prix sont uniformisés et identiques à travers la province. Si vous avez une assurance collective privée, les prix peuvent varier d'une pharmacie à l'autre. La différence entre le prix coûtant du médicament et le montant que vous payez sera essentiellement liée aux honoraires professionnels du pharmacien. Dans le cas de la RAMQ, ces honoraires sont réglementés et plafonnés par le gouvernement. Le projet de loi 67 vise à modifier le mode de rémunération des pharmaciens en encadrant davantage les honoraires pouvant être facturés aux assureurs privés. De son côté, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires négocie depuis plusieurs mois afin de mettre en place des règles de rémunération qui tiennent compte de leurs nouvelles responsabilités professionnelles. C'était « Magasiner le prix de ses médicaments d'ordonnance », un texte de Sophie Stival, paru le 7 juin 2026 dans « Bel Âge ».